Bienvenue sur RGC
Radio
Gergo
Clermont.
Clermont écoute, Gergoville.
Bonjour, nous sommes les élèves de première bac pro esthétique et coiffure du lycée Gergovie. Cette année, nos enseignants ont organisé un voyage mémoriel en Normandie et sur les plages du débarquement pour fêter le 80e anniversaire de la libération du territoire. Nous sommes très honorés d'accueillir M. Gérard Lanus, vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui s'est engagé à l'âge de 17 ans, qui est d'ailleurs le nôtre aujourd'hui, et qui a débarqué sur ces mêmes plages en 1944.
C'est un témoin vivant de cette période et un passeur de mémoire pour nous tous. Il est accompagné par son épouse, Germaine, mais aussi par M. Georges Cottier, qui va se présenter.
Bonjour à tous. Donc, je suis Georges Cottier, le président du groupement numéro 71 de la Fédération André Maginot. La Fédération André Maginot, c'est la plus ancienne association d'anciens combattants. Elle a été créée par celui qui était ministre de la guerre, André Maginot, et après la guerre 14-18. Et là, il y avait des gros problèmes pour soigner les blessés. Et c'est là qu'il a eu l'idée de lancer les gueules cassées, la loterie nationale. Et c'est avec cet argent que les blessés ont pu se soigner du mieux qu'on le pouvait. Et donc aujourd'hui, cette fédération est toujours actionnaire de la Française des Jeux à 5%. Et c'est avec ces revenus, si je puis dire, qu'elle aide les anciens combattants, qui sont même les plus récents, qui ont fait des OPEX récemment, et qu'elle aide également toutes les classes qui font des voyages sur des lieux de mémoire. Donc moi, je suis le président du groupement 71, qui était initialement constitué de 4 départements de l'Auvergne. Et en 2019, il a failli disparaître parce que ses statuts, c'était uniquement une association d'anciens combattants. Donc il fallait, pour être président, secrétaire, être ancien combattant, ce que je n'étais pas. Et donc on a modifié les statuts pour ouvrir le conseil d'administration à des gens qui partagent les mêmes valeurs, mais qui ne sont pas forcément anciens combattants. Et c'est comme ça qu'on l'a redynamisé et que de 3 voyages scolaires qu'on finançait en 2019 sur ces 4 départements, on en est aujourd'hui à 55. On a rajouté la Loire et on a rajouté l'Aveyron. Donc Gérard Lanus est aussi administrateur est au conseil d'administration de ce groupement 71. Et donc on en est très fiers. Alors il participe pas forcément à toutes les réunions parce qu'on les fait beaucoup en distanciel, les réunions de conseil d'administration, vu qu'il y a 4 départements, enfin il y en a 5. Mais voilà, mais il participe et on en est très fiers.
Pouvez-vous, Monsieur Cottier, nous retracer le parcours de Monsieur Lanus?
Donc il est né, Gérard Lanus, le 14 mai 1925 à Mayence. Son père est officier en occupation et sa mère est décédée quand il avait 6 ans. Il est rentré en France avec son frère Jean, né aussi à Mayence en 1923. Il est à l'école primaire à Orsay, puis pensionnaire à Saint-Nicolas, à Igny, avec les méthodes de l'époque, punition et peu de compréhension de la part des frères des écoles chrétiennes. Son père est nommé dans le sud, tunisien, en 1938. Les garçons restent en France. Gérard est en pension chez un curé qui accueillait 4 élèves près de Saint-Gaudens. Il y trouve enfin une ambiance pleine d'affection. En 1940, les enfants quittent la France et rejoignent leur père. Gérard passe 2 ans sans faire beaucoup d'études, mais il a fait beaucoup de cheval. En 1942, les Allemands débarquent en Afrique du Nord. Gérard s'engage à Sfax. Les 3 Lanus, donc le père, le frère et Gérard, partent à la guerre dans le même régiment, le 4e régiment de Spahis tunisien. Ils font la campagne de Tunisie jusqu'en mai 1943. Blessé pendant la campagne de Tunisie, il est envoyé à l'hôpital en Égypte au Caire. Il part ensuite en convalescence à Ain Sofar au Liban. Gérard quitte le 4e RST et rejoint les forces françaises libres. Rapatrié en Algérie, il rejoint la 2e division blindée qui est en formation à Témara au Maroc. Embarqué pour l'Angleterre avec le 40e régiment d'artillerie nord-africain, devenu ensuite le 40e régiment d'artillerie actuellement à Suippes, Il débarque en Normandie le 1er août 1944 à Etueil Beach, Saint-Martin de Varville. Il fait les campagnes de Normandie, France et Alsace. Il rentre de Strasbourg en décembre 1944 et fait un séjour à l'hôpital à Paris. Il est démobilisé en 1945. Il a 20 ans. Il entre à l'école régionale d'agriculture de Montargis pour 3 ans. Le retour à la vie civile est assez difficile. En 1950, il a travaillé à l'INRA à Paris, puis a fait un stage à Clermont-Ferrand, où il a rencontré Germaine, et se sont mariés il y a donc 75 ans aujourd'hui. Il travaille à la Société des potasses d'Alsace, au service agronomique, puis passe au service commercial et termine à un poste important de chef de bureau en charge de la région Auvergne. Jean, le frère de Gérard, a fait Cherchel. Il est entré à la première armée, a débarqué en Provence et a été tué dans les Vosges en novembre 1944.
Nous allons à présent poser les questions que nous avons préparées à M. Lanus.
Pourquoi vous êtes-vous engagé aussi jeune et quelle a été votre motivation ?
Je suis engagé aussi jeune parce que j'avais une famille spéciale dans laquelle il n'y avait plus de mère puisque ma mère était morte depuis j'avais l'âge de 6 ans. Et c'est mon père qui s'occupait de nous, de mon frère et de moi. Et en même temps qu'il devait faire son métier d'officier. Et ça a été très dur pour lui et pour nous aussi. Et alors, on s'est pris, on s'est dit, il faut quand même essayer de faire quelque chose.
Avez-vous été blessé? Et si oui, comment?
Je faisais la guerre dans un régiment de ce pays, où il y avait des chevaux, bien sûr. Et puis les Allemands s'amusaient à raser les cavaliers. Et là, mon cheval qui a pris peur, et s'est cabré.
Et qui t'a renversé.
Je me suis fait très mal au dos. C'est pas une blessure de...
De feu, d'arme.
C'est l'accident.
Un accident de cheval.
Avez-vous rencontré personnellement le général Leclerc? Si oui, comment était-il? Et quels souvenirs gardez-vous de lui?
Ah oui.
Il aimait bien ses hommes.
Très amical.
Il était proche des hommes.
Proche de nous. Quoi.
Quand et comment avez-vous su que vous alliez débarquer en Normandie?
Eh bien, il s'est engagé. Quand il a repris la guerre, à l'hôpital.
Mais vous avez su quelques jours avant comment ça s'est fait? Parce que...
On savait qu'on
a... Il faisait les manœuvres.
On savait que c'était pour...
Il faisait les manœuvres en Angleterre.
C'était pour y aller, oui. Et on l'a su pas tellement longtemps avant.
2-3 jours avant?
Oui, à peu près, peut-être un peu plus.
Sur quelle plage avez-vous débarqué et y êtes-vous retourné?
Vous avez appris ça en fin de voyage, que chaque plage où il débarquait, on avait donné le nom d'un État américain. Donc il y a eu Omaha, etc. Il a débarqué sur la plage qu'ils avaient appelée Utah, dans un village en Normandie. Et on y est retourné, oui, on est retourné plusieurs fois en voyage, comme ça. Utah Beach, t'as débarqué.
Utah Beach.
Et alors ce jour-là, c'était le jour du débarquement, 75e anniversaire de débarquement, où il y avait la reine d'Angleterre, Obama, Poutine, et quand la reine d'Angleterre, qui avait été militaire, Elisabeth II, elle avait été ambulancière, on en voit des fois dans les films. Quand elle est arrivée, il y a eu un hurlement de joie de voir qu'elle était ancien combattant comme les autres. C'était vachement émouvant.
Qu'avez-vous ressenti en posant le pied sur les plages normandes?
L'euphorie, bien sûr. Enfin, on était là, on y est arrivé.
Quelle était votre mission avec la 2e division blindée?
J'étais avec mon char.
J'ai passé les crises au bout.
Et en face de moi, il y avait d'autres des chars aussi. Chacun avait l'intention de se débarrasser de celui qui était en face. On se battait entre soldats. Et mon rôle, c'était d'essayer d'être celui qui gagnait. C'est peut-être pas très moral, mais c'est la guerre.
Et sur le char, il était canonnier, c'est-à-dire qu'il portait les canons. C'est comme ça qu'il a perdu l'oreille gauche et qu'il est rentré déjà sourd à 20 ans.
Il approvisionnait les munitions dans le canon.
C'est ça. Il était canonnier. Oui.
Aujourd'hui, quel est le souvenir que vous gardez en mémoire de ce débarquement en Normandie?
La victoire, avec une pensée pour ceux qui n'ont pas débarqué parce que c'était, ils sont morts. Mon frère fait partie. Et dans les guerres, il y a les vainqueurs, il y a les vaincus. Et j'ai toujours eu à la pensée maintenant que si c'est bien pour moi en ce moment, mon frère est là et c'est fini.
Qu'est-ce qui vous a permis de tenir dans les moments les plus difficiles?
Ceux qui combattaient avec moi,
oui,
pour la même chose. Et puis la bonne entente entre nous, et d'être de bons soldats qui faisaient le métier pour leur pays. La satisfaction et la tristesse pour ceux qui avaient disparu.
Est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches pendant la guerre?
Pas du tout. T'as eu aucune nouvelle des proches pendant la guerre?
Ah non, non, non.
D'ailleurs, il n'a jamais revu son frère, de toute façon. Ils se sont quittés en 1943, quand la bataille de Tunisie a été gagnée. Puis après, son frère a été tué, mais ils ne se sont jamais revus. Et il a revu son père en 1944.
Comment était la vie des soldats pendant cette guerre?
Elle était assez difficile quand même, physiquement. C'était notre devoir, donc.
Et puis dans la première partie, quand il avait fait la campagne de Tunisie, c'était encore la guerre à l'ancienne, ils étaient à cheval, et derrière, il y avait ce qu'on appelait la roulante, c'est-à-dire quelque chose avec tiré par les chevaux, et on leur donnait à manger comme ça dans des gamelles. Tandis que dans la deuxième partie, c'était l'armée américaine, alors ils avaient des rations, ils ouvraient la boîte, et puis ils trouvaient tout ce qu'il fallait, tout chou.
La première partie, c'était la guerre 14-18 encore.
Ouais, c'est ça.
La gamelle, la roulante qui suivait, qui faisait la tambouille, etc. Le matériel aussi.
Mais enfin, il faut dire qu'ils ne se lavaient pas beaucoup.
C'était la guerre, comme la guerre 14.
Ils couchaient par terre, sous les tentes. Enfin, c'était une guerre d'attaque.
Est-ce que les combats pour libérer Paris et Strasbourg ont été difficiles?
Libération de Paris, c'était difficile. Les combats dans la ville.
Ça a été vraiment, il y a eu vraiment des combats. On n'est pas rentré comme ça, bravo. Il y a eu des morts, je ne sais plus le nombre. Mais il y a eu pas mal de morts quand même.
Et toujours dans le char, là.
Pardon?
Toujours dans le char pour approvisionner les munitions.
Jusqu'au bout.
Comment avez-vous été accueilli par les populations civiles lors de la libération de Paris et de Strasbourg? Avez-vous une anecdote à nous raconter?
Du délire, les gens montaient sur les chars, nous embrassaient, on était des héros, c'était vraiment l'enthousiasme.
Et il y a une anecdote particulière que vous avez à raconter éventuellement? Un souvenir particulier?
Il y avait des particuliers très particuliers.
Ah si, ça nous intéresse, des particuliers très particuliers. Allez-y, monsieur Lanus, c'est pas bien ce qu'il veut.
Je crois que c'est ça.
Mais si, allez-y. C'est ça qu'ils veulent savoir, les jeunes.
les gamines qui montaient dans le char.
Ah ouais?
Qui fêtait la libération, qui était libérée à double sens.
Il y a des choses qui l'ont choqué, c'est quand même que quand ils arrivaient pour libérer Paris, il y avait en même temps tous les résistants qui tondaient les bonnes femmes dans les rues qui avaient couché avec des Allemands, et ça, il paraît que c'était assez épouvantable à voir. Ça l'a beaucoup frappé. Il y avait la joie d'un côté, il y avait de l'autre côté.
Il y avait celles qui avaient couché avec les Allemands.
Le commencement d'épuration.
C'était pris à partie par les féfés, qui les déshabillaient, qui les battaient, etc. C'était pas beau. Hein. C'était affreux.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris que la France avait gagné la guerre et était libérée?
Alors, quel mot employer pour dire la joie qu'on avait, mais elle était immense, quoi. Enfin voilà, on avait gagné la France, on avait récupéré notre pays. On était fiers de nous, on était très fiers de nous.
Comment fait-on pour reprendre une vie normale après la guerre?
Je me suis dit, maintenant, il faut faire ta vie. La guerre, c'était fini. Bon, on en est fiers, on en sera toujours fiers. Mais j'avais pas de métier, j'avais rien. J'avais pas beaucoup de choses derrière moi pour m'installer confortablement dans la vie civile.
Bah, t'es allé à l'école. Ouais. T'es parti à l'école d'agriculture.
Oui. Alors j'ai fait une école d'agriculture qui a accepté de me prendre comme élève parce que j'ai pas passé le concours d'entrée. Enfin, j'ai quand même eu le diplôme. Et puis, bon, moi j'ai ce diplôme. Et puis avec ce diplôme, j'ai fait des stages dans des exploitations agricoles. J'ai eu du mal. J'avais pas des gros salaires, j'avais pas des gros trucs. Moi, je suis rentré dans le service commercial et je suis devenu chef de secteur, en finale.
Si vous avez des enfants, est-ce que vous leur avez parlé de votre histoire?
On n'a qu'un fils qui a vécu vraiment dans tout ce qui a été la vie de la guerre, qui a beaucoup, qui connaissait toujours encore son grand-père, qui était militaire. Son arrière-grand-mère qui était femme de militaire de l'autre côté aussi. Alors notre fils, elle était bien bercée par l'armée. Alors il a tout su. Et puis on l'a emmené à tous les voyages qu'on a fait qui correspondaient au anniversaire de débarquement, etc. Enfin, il était tout à fait bercé par l'armée.
Qu'est-ce que cela vous fait de faire partie des derniers vétérans de la Seconde Guerre mondiale?
D'être là. Un original d'une certaine valeur.
Quand il était la 2e DB, la 2e division comptait 15 000 soldats, et actuellement ils sont plus que 20. Donc évidemment, le plus jeune, c'est un peu comme mon mari, les plus jeunes, ils ont 100 ans. Et nos deux derniers amis qui ont fait la guerre, il y en avait un de la 2e DB qui est mort à 102 ans. Il habitait Vichy il n'y a pas très longtemps. Dufour, et l'autre Jean Magot, qui était à la première armée, qui est mort aussi à 102 ans et qui est mort il y a 2 ou 3 ans. Donc je pense que mon mari doit être le dernier ancien combattant du département, j'imagine.
Je pense, oui. Et Gérard Lanus a eu la Légion d'honneur 2017, c'est ça, non? Pour ses...
Pour mes combats.
Pour ses combats, voilà. C'est à ce titre qu'il l'a eu.
Les gens d'honneur, la Croix de Guerre.
Et on avait gardé beaucoup de contacts avec tous les autres, les anciens de la 2e DB. Ils avaient une association par département. Et alors tous les ans, on se réunissait, Assemblée Générale, pique-nique, etc., etc. Enfin, on a suivi tout ça pendant tout le temps. Mmh. Dès qu'il est sorti de la DB, tu étais affilié à Paris et après, tu es venu à Clermont. On les a suivis jusqu'au bout. On a gardé de très bons contacts.
Donc je pense qu'assurément pour le Puy-de-Dôme, c'est un des derniers qui a fait le débarquement, mais je pense aussi que sur l'Auvergne ou les départements autour, je n'en connais pas d'autres en tout cas.
Non, il n'y en a que 20 en France.
Je me sens devenir une curiosité.
Mais vous pouvez en être fier. Il faut en être fier.
Qu'aimeriez-vous que les jeunes d'aujourd'hui retiennent de votre histoire et quel message souhaitez-vous faire passer aux générations futures?
Faire comme nous, si ça se présente, faire son devoir, se donner pour son pays.
Madame Lanus, pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu les événements de la Seconde Guerre mondiale et nous dire ce qu'il vous reste en mémoire de cette période?
Alors moi, j'ai vécu donc à Clermont-Ferrand. Donc, on était en vacances en 1939, dans la campagne par là, et on aurait dû partir chez des cousins qui étaient plus éloignés. Et mon père nous a dit, la guerre va arriver, on reste là. Donc alors on est resté chez nous tranquillement. Je suis allé à l'école, comme mon frère et ma sœur. En 40, on a vu que la guerre tournait mal pour la France. Et à ce moment-là, en province, on a reçu beaucoup de gens qui avaient quitté la région parisienne, des réfugiés qui débarquaient à la gare en grand nombre, qui étaient complètement ébahis, boubis, enfin... Alors avec mes parents, on est allé à la gare et on a récupéré une famille qui comprenait la grand-mère, la mère et la tante, parce que les deux fils étaient à la guerre, et des petits-enfants. On les a récupérés chez nous pendant quelques temps. Et puis dans le quartier, on a trouvé un appartement où ils sont allés habiter. Et après, donc, on a continué à rester en relation avec eux. Et puis alors la guerre, ça a été le ticket de rationnement, etc. Et puis en 1942, on est devenu donc la zone occupée. Alors les Allemands sont arrivés. Alors tous les dimanches, ils partaient de la caserne de 92 qu'ils occupaient pour aller défiler dans les rues, donc en particulier dans la rue Montlosier. C'est pour ça que le monument aux morts de la guerre de 39-45 est situé à rue Montlosier. Et ils allaient jouer de la musique sur la place de Jaune. Et puis en même temps, on a appris, évidemment, qu'il y a eu des rafles. Et en particulier des rafles qui nous ont concernés, on peut dire, si on peut dire, parce qu'ils reconnaissaient très bien les jeunes gens de notre âge, évidemment, pas tous. Mais enfin, en particulier, il y avait trois frères, qui s'appelaient trois frères, les fils de M. Gors, qui étaient avoués, qui habitaient près de la cathédrale, et qui faisaient beaucoup de choses dans un foyer étudiant, qui était en bas des grands escaliers, pour ceux qui connaissent un peu clairement, c'est en bas du monument aux morts. Et là, il y avait le foyer Saint-Louis, où on se retrouvait des fois le dimanche, après, nous, quand on était plus âgés. Et eux, ils s'y retrouvaient. Et un beau jour, il y avait des résistants qui étaient sur la poterne, si vous voyez où c'est, hein, à côté de la cathédrale, qui avaient lancé, donc justement, pendant que les Allemands allaient faire leur musique place de Jaune, ils avaient lancé des grenades, enfin, en punissant, ils ont raflé tous les gens du quartier, et en particulier tous les jeunes gens qui se trouvaient au foyer Saint-Louis. Et là, il y avait les trois frères Gors, et ces trois frères Gors ont été déportés et ne sont jamais revenus. Alors pour nous, c'est la chose qui nous avait quand même beaucoup marqué, parce qu'ils avaient notre âge. Puis ils n'étaient pas résistants, ils étaient là par hasard. Et puis après, il y a eu la libération en 1944. Alors le matin de la libération, on a entendu 25 août 44. Tout d'un coup, ça s'est mis. Les volets ont claqué, les fenêtres sont ouvertes. On part. On a fait la farandole avec des gens qu'on connaissait, ni d'un ni d'un. On a fait tout le tour de la ville. J'avais 15 ans, 16 ans. On savait que c'était fini.
Et puis après, elle a eu la joie de me rencontrer.
Putain. Enfin voilà, ça c'était ma vie d'écolière. J'avais votre âge, ça m'a un peu. Au départ, bien moins, mais. J'avais 17, 16 ans à la fin. Et c'était fini, on était bien contents. Et moi, j'avais un frère qui était parti en Allemagne pour le travail obligatoire. Et on a attendu qu'il rentre. Et quand il est rentré à 3h du matin, c'était une sacrée épreuve de le revoir. Et après, alors, l'évêque de Clermont-Ferrand, Monseigneur Piguet, qui avait eu le malheur de faire en chaire le jour de la Pentecôte un sermon qui n'avait pas plu aux Allemands, avait été déporté en Allemagne. Et alors, en 45, dans le courant de l'été 45, il est rentré de déportation, et on savait à quelle heure le train arrivait en gare. Et je peux vous dire que dans la gare de Clermont, il y avait sûrement plus de gens qui n'étaient peut-être jamais allés à la messe que de gens qui étaient allés à la messe. Mais ça avait été une journée inoubliable pour les Clermontois, que l'évêque, quelles que soient nos opinions, ait été libéré. C'est un grand jour.
Et alors après votre parcours, Germaine, professionnel?
Eh bien après moi j'ai continué mes études, j'étais encore à l'école Monange, donc dans la place Saint-Joseph. J'ai passé le bac, puis j'ai commencé une licence de lettres classiques, et puis je me suis mariée. Alors donc je l'ai terminée à Paris, à la Sorbonne. Et puis après j'ai passé le CAPES pour tout vous expliquer, puis je suis devenue professeur de lettres classiques. Et comme mon mari avait été nommé à Clermont, je suis rentrée dans la région. Alors ça, ça n'a plus de rapport avec la guerre, mais enfin la suite, c'est Ghana, Thiers, Brieux, Dena. Et j'ai fini au collège Teilhard de Chardin, où j'ai passé 21 ans, et où j'ai bien aimé mon métier et j'ai bien aimé mes élèves.
Et depuis 75 ans, on est heureux.
Ah oui.
Tu l'as pas dit, ça?
Non, pas encore.
Ainsi s'achève notre interview. Nous remercions chaleureusement M. Lanus pour sa venue, et également son épouse et M. Côté pour l'avoir accompagné.
Merci aux auditeurs pour votre écoute et à bientôt sur RGC.